Bonjour, je suis ravie d'être à nouveau sur les ondes de Diva FM pour vous proposer mon émission « Alice et vous ». Aujourd'hui, vous allez plus que jamais franchir la porte de mon cabinet car le sujet abordé va être la relation thérapeutique. Je vais vous livrer ce qui se joue dans les séances entre les patients et les psychothérapeutes. Et grâce aux témoignages que vous allez découvrir et aux questions de Jennifer, vous en saurez plus sur ce lien qui peut être difficile à comprendre. Bonjour Jennifer.
Bonjour Alice. On a déjà créé ce lien avec vous puisque à travers cette émission qui dure une heure tous les vendredis de 17h à 18h, nous franchissons la porte de votre cabinet. Ce cabinet dans lequel notre vie va se dévoiler, une partie de nous et une confiance va devoir s'installer. Cette confiance, on se l'est accordée en créant cette émission et en même temps en parlant de plein de sujets qui sont dans notre quotidien et cette relation qui est donc la relation thérapeutique. Alice, cette relation thérapeutique, c'est vrai que c'est un moment décisif, une étape dans notre vie, franchement, faut le dire, car aujourd'hui, elle est de plus en plus acceptée et elle devient presque une évidence aujourd'hui. À ce moment-là, quand il y a un passage dans notre vie dans lequel nous allons avoir besoin d'une aide extérieure, c'est vrai qu'avant, on se retranchait beaucoup dans sa famille. Et là, aujourd'hui, on se tourne un peu plus vers les professionnels comme vous. Alors, dans cette relation, dans ce déclenchement qui va arriver, Alice, pour venir justement franchir votre porte, déjà, est-ce qu'il y a une définition de la relation qu'il y a entre un psychologue, oui, donc la relation thérapeutique?
Oui, tout à fait. Je vous donnais la définition, on va dire, officielle que, voilà, dont on entend souvent parler. Donc, une relation thérapeutique est un ensemble d'échanges intervenant entre deux personnes dans le cadre d'un soin apporté à l'une d'elles comme modalité principale et privilégiée. Voilà, ça c'est la définition basico-basique.
Si vous en aviez une, vous, est-ce que vous arriveriez à me dire, je vous prends un peu au dépourvu, hein, vous savez qu'on fait toujours ça.
C'est ça.
Vous auriez votre définition?
Je réfléchis. Quelle est la définition de la relation thérapeutique?
Pour vous?
Oui, tout à fait. Je réfléchis. Alors, c'est un échange qui s'effectue, on va dire, dans la bienveillance, de sujet à sujet. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, on va dire, dans cette relation. Et justement, avec cette notion de neutralité bienveillante qu'apporte le professionnel. Voilà, c'est vraiment de dire, j'ai certains patients qui me disent « oui, je discute comme avec une amie », mais la différence, comme je ne suis pas leur amie, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire, sans peur d'être jugés, parce que les thérapeutes, les psychothérapeutes, on dirait, on est en dehors de leur vie, et le but, c'est d'essayer de comprendre au mieux ce qui se joue, sans forcément nous accrocher uniquement à leurs paroles. C'est-à-dire que le non-verbal est très important dans cette relation-là, et puis après l'esprit d'analyse aussi qui va avec.
Donc on est aussi dans la gestuelle, dans le langage corporel, en quelque sorte, vous allez l'analyser, ça on l'imagine très bien. Mais c'est vrai que, allez, décortiquons un petit peu cet environnement, ce cabinet, cette pièce. Déjà, avant qu'on parle de la démarche de venir à vous, un cabinet, on se l'imagine comment? Est-ce qu'on se l'imagine comme dans les films? Ce canapé, vous installé sur le canapé, l'autre personne aussi, voire allongé parfois. Voilà. Essayez de nous décortiquer un petit peu l'idée peut-être préconçue.
Alors, je vais vous... je vais partir sur mon univers parce que nous sommes tous différents dans le métier. Il y a des personnes qui vont avoir juste une chaise au milieu d'une pièce et qui vont recevoir, on va dire, les patients sur un fauteuil ou un canapé. Pour ma part, en fait, il y a plusieurs possibilités lorsque je reçois les gens en thérapie. Certaines personnes préfèrent se mettre au bureau, c'est-à-dire moi sur une chaise, la personne sur une chaise et le bureau entre nous. Très souvent, nous sommes chacun l'un et l'autre dans un fauteuil en face à face, avec une toute petite table qui nous sépare. Ou également, il y a ce fameux canapé. Des personnes préfèrent aller sur le canapé pour s'asseoir. Et après, lorsqu'on rentre dans la psychanalyse, où le patient doit, on va dire, se défaire du regard du psy. Donc là, la personne s'allonge et moi, je disparais de son champ visuel.
Parce que justement, cet échange à ce moment-là, on peut être un petit peu terrorisé par le regard de l'autre quelque part, et le vôtre surtout.
Tout à fait.
Qui est inconnu quelque part.
Mais tout à fait, d'où l'intérêt d'être bienveillant et neutre, tout comme l'écoute. Parce que si, alors bien sûr, nous avons des émotions, nous sommes des humains, mais nous ne sommes pas censés nous laisser emporter, dévaster lors du récit de nos patients. C'est-à-dire que, oui, mon regard va exprimer peut-être de la joie, du mécontentement, une empathie, une compassion par rapport à une histoire de vie difficile. Mais comme je dis, en aucun cas, je vais me mettre à pleurer. En aucun cas, je vais me mettre à éclater de rire. Et il y a toujours cette douceur et cette neutralité bienveillante qui doit être vraiment présente au cœur du regard.
Ça doit pas être facile toujours quand même cette retenue quelque part. Vous l'imposez, vous l'obligez.
J'ai envie de dire, pour que ce soit le meilleur possible, faut que ce soit naturel. C'est-à-dire que moi, si vous voulez que je parle de moi, j'ai un filtre naturel qui se met en place dès lors que je suis en consultation. D'où l'intérêt, c'est vrai, de travailler sur soi au préalable en tant que thérapeute, psychothérapeute ou psychanalyste, justement pour être touché personnellement le moins possible, parce que nous sommes censés pouvoir tout entendre sans être, on va dire, dans l'hyper-émotion et dans l'hyper-émotivité ou sensibilité. Oui, tout à fait.
Bien sûr, non, mais c'est vrai que ça doit pas être toujours... Alors, ça pourrait presque vous rendre inhumain, en quelque sorte, parce que c'est vrai...
C'est pour ça que je précise.
Voilà, parce que c'est vrai que quand on si on est là à vous parler d'une histoire qui peut bien évidemment émouvoir, de vous voir peut-être avec un regard, j'imagine, quand même avec de la compassion, et vous allez pas rester de marbre.
Non.
Mais c'est vrai que... Presque on aurait envie de mettre la main sur ce patient-là à ce moment-là, voilà, pour réconforter.
Alors, pareil, chacun réagit comme il a envie. Chaque psychothérapeute a ses façons de faire. Certains n'hésitent pas à aller toucher le patient. Moi, pour ma part, c'est la barrière que j'impose. Je ne touche jamais un patient. Voilà. Et justement, c'est ça qui nous différencie du cadre amitié. Bien évidemment que dans le cadre personnel, quelquefois, ces histoires de vie que l'on entend, si c'était nos amis, on les prendrait dans les bras et on les ferait pleurer avec nous. Mais justement, c'est de par ce positionnement-là que la personne aussi s'autorise à aller plus loin et se sent aussi en sécurité.
Parce bizarrement.
Que nous ne débordons pas. Oui, bizarrement.
Bizarrement, parce que du coup, on n'est pas dans l'affect comme on le serait, comme vous disiez, avec un ami, qui on va pleurer sur son épaule. Peut-être qu'on arriverait plus facilement à se confier ou pas. Et finalement, vous êtes en train de dire que cette barrière, qui n'est pas de froideur,
non,
qui est juste de respect et de professionnalisme,
tout à fait,
permettra malgré tout de délivrer plus facilement le
poids. Tout à fait, parce que voilà. Vous voyez, quand on est dans un cadre amical, on peut avoir des attentes par rapport à, justement, à l'ami à qui on se confie. Est-ce qu'on a envie que cette personne nous écoute uniquement? Est-ce qu'on a envie que cette personne, justement, soit de notre côté? Et en fonction de ce qui se joue dans la relation amicale, ça ne peut pas se passer de façon neutre. Tandis que le fait d'être là, en train d'écouter la personne avec un regard bienveillant, et le fait d'être... j'ai pas envie de dire impassible, hein, parce que moi je suis sincère, hein, dans mon travail, je ne suis pas un robot. La personne, finalement, elle voit que le thérapeute ne s'effondre pas. Donc quelque part, c'est le côté cadrant, vous voyez, de dire.
Ouais, vous êtes dans presque une attache solide en quelque sorte, sur un point d'amarre sur lequel on va pouvoir.
On peut décharger sans conséquence.
Voilà. Et vous êtes quelque part dans, voilà, vous n'allez pas vous effondrer dans tout ça. Juste une dernière question, Alice. L'autre peut-être imagination que l'on a, c'est celle de se dire que dans la relation thérapeutique, donc dans la relation avec son psy, c'est aussi une idée préconçue, comme on peut le voir dans les films, quand on se dit que notre psy, on va pouvoir l'appeler à n'importe quelle heure, voilà, dès qu'on a un besoin, ou aller à son cabinet, frapper à la porte. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. Alors ça aussi, c'est... alors. Une bonne ou une fausse croyance, qu'est-ce qui se place ? Lorsqu'on est psy, donc moi je suis psychanalyste, on peut faire, on va dire, de la psychothérapie, de la psychothérapie analytique, de la psychanalyse, mais également de la thérapie de soutien. Ce que vous venez de décrire appartient à la thérapie de soutien, c'est-à-dire que lorsqu'on positionne la relation dans ce cadre-là, effectivement, il est de notre rôle, lorsque c'est posé, de pouvoir soutenir la personne et l'accompagner à divers moments de sa journée lorsque cette personne ne va pas bien. Mais c'est un choix à la base, on va dire, du psy. Tout le monde ne le fait pas. Et c'est important de le préciser car il ne faut pas jeter la pierre justement à ses accompagnants, à ses psychothérapeutes qui ne le proposent pas car ils pensent sortir du cadre et ça ne va pas avec le type de thérapie qu'ils proposent. Donc évidemment, l'enjeu n'est pas le même. On ne peut pas le proposer à tous les patients parce que, bien évidemment, si on a quelqu'un qui est dans un trouble de l'attachement, qui est dans une dépendance affective, l'idée est de ne pas nourrir sa névrose, sa pathologie, et justement, le cadre va être important. Par contre, moi, personnellement, je peux ou j'ai pu, on va dire, proposer ce type d'encadrement en thérapie de soutien lorsque la personne est dans l'urgence, surtout quand il y a des cas ou de décompensation ou de possible suicide. Voilà.
On est dans des cas vraiment...
extrême.
Extrême, oui, c'est vraiment le cas de le dire. C'est presque un cas de danger imminent quoi, pour la personne. Donc, non, mais c'est vrai parce qu'on voit, on se dit, les relations psy, c'est vrai que les références qu'on a, soit c'est qu'on les a vécues, soit c'est qu'on les observe à travers les autres ou parfois à travers la fiction. Mm-hmm. On voit ces scénarios en télévision, on se dit, hop là, allez, vite, 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 mais j'ai mon psy. Là, d'un coup, il y a une fleur qui est tombée, il faut que j'appelle mon psy.
Alors, à la base, c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce que tout doit se jouer au sein du cabinet le cadre. Et comme je dis, on doit l'adapter, on peut l'adapter si c'est notre souhait par rapport à une personne qui a une problématique particulière.
Oui, vraiment, il y a une problématique assez urgente et qui doit être traitée le plus rapidement possible. Alors, Alice, justement, afin que on comprenne cette relation qui se joue, après, j'ai envie de vous poser les questions des déclencheurs. Voilà, mm-hmm. Qu'est-ce qui va nous motiver à un moment donné à dire j'ai besoin d'un professionnel qui va m'aider, qui avec lequel je vais instaurer un rythme aussi, de le voir régulièrement. Ça va être vous qui allez l'instaurer ce rythme ou c'est le patient ?
Je le propose et on se met d'accord ensemble.
D'accord.
Je n'impose pas.
Vous n'imposez pas.
Je donne mon avis. Je dis ce qui me semble être le mieux par rapport à la situation et après on travaille en accord avec le patient. C'est très
important. On fait presque, j'ai envie de vous dire, c'est pas le mot qui convient, mais on ferait presque un genre de devis en quelque sorte, pas un devis financier, mais un devis de dire qu'en fonction de la problématique qui se joue, de dire vous êtes une personne avec qui on aura besoin de faire tant de séances ou pas, ça se passe comme ça ou pas ?
Alors moi je parlerais plutôt en termes de contrat verbal, de contrat de confiance que de devis. Alors en psychanalyse il n'y a rien de protocolaire, c'est-à-dire que lorsqu'une personne met un pied dans notre cabinet, on ne sait pas si on va la voir une fois ou si on va la voir, on va dire, pendant plusieurs années. Moi, quand je parle du fait d'adapter le rythme, c'est par rapport où en est la personne, déjà par rapport à la compréhension de la situation, est-ce qu'il y a urgence ou pas. C'est plutôt des phases qui se joue pendant tout le temps de travail. C'est-à-dire que je peux démarrer... Alors, la plupart du temps, quand je démarre, on va dire, un travail avec un patient, je propose la temporalité de un rendez-vous tous les 15 jours. Et ensuite, on estime l'un et l'autre si c'est suffisant ou s'il faut que l'on passe à une fois par semaine. Tout dépend. Quand on commence, moi, à peu près, je fais une fois tous les 15 jours. Quelquefois, je leur dis, là, il serait peut-être judicieux à ce qu'on fasse une fois par semaine. Pour régler la problématique et accélérer le travail.
Et on peut même distancier après tout ça.
Et ensuite, effectivement, quand le plus gros du travail est passé ou quand c'est trop douloureux pour la personne, de dire voilà, on peut se voir une fois par mois.
Oui, voilà, vraiment,
tout dépend de la phase de la psychothérapie.
Oui, c'est presque vous qui allez juger, mais toujours en cohésion
accord.
Et en accord tout avec la personne qui se trouve
moi,
en face.
Moi, c'est ma façon de faire.
Et on va pas la critiquer, franchement. Alors, justement, afin qu'on puisse comprendre un petit peu mieux encore cette relation thérapeutique entre un patient et son psy, on va se faire le plaisir d'accueillir un témoin. Et c'est Lorraine qui est avec nous. Bonjour, Lorraine.
Bonjour.
Bonjour Lorraine, merci de prendre le temps d'être avec nous sur ce plateau.
Avec plaisir.
C'est gentil, merci. Alors, dans cette émission, Alice et vous, je pense qu'Alice, elle ne vous est pas inconnue.
Pas du tout.
Bon, et nous allons, voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour décortiquer un petit peu ces relations qui s'installent avec vous en tant que patient et Alice en tant que psy. Alors, cette relation... Est-ce que pour vous, le mot, il sonne juste, cette relation, déjà ?
Ah oui. Oui, ça sonne juste. Parce que, bon, évidemment, quand on y va au départ, il faut trouver déjà la personne avec qui il va justement se créer un lien. Après, évidemment, il y a toujours une distance. Mais il faut que le patient... Enfin, faut ressentir vraiment cette alchimie, limite. Parce que on se met à nu, on livre des choses très importantes, et si on ne sent pas le climat de confiance ou de compréhension de la personne en face, c'est compliqué. Donc forcément, je trouve que c'est un lien quand même très intime, sans aller évidemment, faut garder une certaine distance, mais c'est quand même, je trouve, un lien intime. Il y a des choses que moi j'ai dit à Alice que je n'ai jamais dit à personne, pas même à des amis, à de la famille ou même à mon compagnon. Et il faut vraiment ressentir quelque chose de profond du thérapeute en face pour pouvoir se livrer comme ça.
Franchement, Lorraine, alors ce qui est fou, c'est qu'on n'a même pas préparé cette interview avec vous. Et vous venez en quelques secondes de résumer ce que l'on venait, parce qu'on a commencé l'émission depuis à peu près un quart d'heure. Vous venez en 30 secondes de résumer ce qu'on vient de décortiquer justement avec Alice sur la relation psy. Cette distanciation qu'il y a malgré tout, même s'il y a une relation... puisque le mot était juste, qui s'installe, mais malgré tout avec une distance qui est là. Mais il y a besoin quand même d'avoir une fusion pour que elle puisse quand même vous cerner. Non, mais quand je dis fusion...
Oui, j'ai rebondi. Ouais.
Ah, Alice, vous inquiétez pas. Une fusion... Non, mais ça fait presque une fusion, vous savez, de compréhension sur lequel vous allez pouvoir fusionner avec elle sur ses émotions, vous voyez. Mais je n'ai pas dit que vous allez vous calquer, Alice. Vous inquiétez pas. Mettez le mot que vous voulez. Ça y est, allez, Alice, elle marronne.
Non,
allez,
alors c'est dans une relation saine d'accompagnement. C'est plutôt être sur un mode de compréhension, peut-être parfait, de la personne que nous accompagnons.
C'est pour ça que je dis fusion, parce
non,
que ça fait
la fusion, c'est excessif et c'est malsain en psychanalyse.
Ah d'accord, bon ça va, on va pas être malsain. Alors on était tellement bien partis qu'on va pas rentrer dans le malsain. C'est vrai, alors, dans cette relation, Lorraine, que vous avez installée et qui, comme vous le disiez il y a quelques instants, vous avez confié à Alice des choses que... vous n'aviez jamais fait, que ça soit dans votre entourage le plus proche quand même, dans votre conjoint, dans votre famille, peut-être dans vos amis. Vraiment, c'est qu'est-ce qui a déclenché ça ? Parce que ça doit pas être facile quand même de confier des choses sur lesquelles on n'a jamais parlé. Il y a des émotions qui doivent se lâcher là, en quelque sorte.
C'est pas facile au tout début. Parce que forcément, on révèle des choses très intimes à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais quand on voit que le climat de confiance, d'empathie, de non-jugement, quand ça c'est face à nous, pour se livrer, c'est beaucoup plus facile. Après, la distance, c'est sûr qu'il y a... Après, je sais que j'ai eu des phases, on ressent des choses. Il y a eu des fois où j'ai plus ressenti des fois de la colère contre Alice. Ou ce qui est normal parce qu'elle me renvoie des choses qui des fois ne sont pas agréables. Donc on passe par
différentes étapes, différentes émotions, dont la colère. Vous me surprenez, Lorraine, avec ce
j'ai
mot.
J'ai déjà eu. C'est pas resté longtemps. Je tiens à rassurer Ali.
Non, mais je suis pas inquiète.
C'est admirable ce que vous êtes en train de dire, parce que on s'imagine tout simplement qu'on est toujours en train d'acquiescer ce que notre psy va nous dire, et là vous êtes en train d'évoquer justement que non, ça peut se passer bien différemment. Alors vous êtes pas, je j'imagine, quand vous êtes dans la colère, vous allez pas l'insulter, on n'est pas dans ça quand même. Mais
non, mais la colère, elle est pas forcément sur le moment pendant la consultation. Ça peut être un petit peu après, le temps qu'on se rende compte de certaines choses ou ce qu'on a entendu ne nous plaît peut-être pas trop, où on y réfléchit et on se dit « Ah zut, elle a peut-être raison ». Et comme il y a un temps d'adaptation, je pense que la colère, c'est à ce moment-là. Mais après, j'ai eu bien d'autres sentiments. Hein. Je me souviens des fois être rentrée et je disais à mon compagnon, oh là là, tu crois que le jour où ma thérapie sera finie, elle voudra bien devenir mon amie. Enfin, vous voyez, il y a des choses, on a envie de créer. Après, voilà, c'est des petites phases et évidemment, après, ça passe parce qu'on sait très bien que, ben, de toute façon, même s'il y a un lien comme ça qui se crée, la thérapie n'aurait plus trop de sens parce que bon, bah, parler à une amie, on peut le faire, tout le monde peut le faire, parler à sa famille. Mais ce qu'on veut du thérapeute, justement, c'est cette neutralité et surtout le non-jugement.
Et oui, qui est quand même une différence avec notre entourage. Mmh. Alice, c'est fou quand même ce qu'elle évoque.
Non, mais moi, je remercie Lorraine de soulever ça parce que c'est aussi cette notion de transfert, de contre-transfert qui se joue dans la relation thérapeutique. Alors ça, je ferai une émission particulière dessus pour vraiment expliquer ce qui se joue. Mais tout comme le patient n'est pas censé acquiescer tout ce que dit le psy, nous les psys, on n'est pas censé dire des choses qui font uniquement plaisir à nos patients. C'est pas ça être psy.
Bien sûr.
C'est ancrer aussi la personne dans la réalité, lui expliquer ce qui se joue, que peut-être ce qu'elle ressent peut être biaisé. Et aussi le fait de faire travailler les gens sur eux, comme dit Lorraine, c'est comme je dis tout le temps, moi je suis votre propre miroir, moi je renvoie ce que la personne me dit, m'explique. Ah ben non, c'est pas tout le temps agréable. Comme je dis, les gens ne sortent pas toujours avec le sourire de mes consultations, mais c'est à chaque fois constructif et nécessaire.
Mais comment on s'imagine qu'on est là pour que vous soyez dans la bienveillance? Certes, vous l'êtes toujours, même si vous mettez l'effet miroir, même si c'est pas agréable, c'est quand même malgré tout de la bienveillance, c'est pour nous faire prendre conscience de ce qui sur le moment se joue. Mais c'est vrai qu'on se dit, on ressort de là généralement, c'est pour être bien, pas pour être justement en train de s'exprimer sur des sentiments de colère, vous voyez.
Voilà, alors comme je dis, c'est pour être bien par la suite.
Et
comme
je dis parce tout le temps,
l'humain n'évolue que dans la douleur, mais c'est ça aussi qui joue dans le transfert. C'est à un moment donné, quand on a la relation avec son psy, on va dire, nous les psys, on peut prendre tous les rôles. Un coup, on peut être associé à la mère, au père, au compagnon, à la sœur, à l'enfant. Je veux dire, comme on va vraiment faire travailler la personne, moi, nous en psychanalyse, hein, sur tout ce qu'elle a ressenti depuis son enfance et depuis toutes les places, on va dire, émotionnelles, affectives qu'elle est occupée, nous, on est là pour tout remettre à niveau aussi. Donc c'est pas forcément agréable.
Bah, on le voit, hein, Lorraine, puisque quand vous nous avez dit vous êtes sortie du cabinet avec cet instant un petit peu d'émotion colère, c'est pas une colère que voilà vous avez dit vous l'avez gardée des jours et des jours, mais c'est une colère qui vous a permis peut-être certes c'était dérangeant ce qui a été dit, mais en même temps vous avez eu l'intelligence, je sais pas si on peut le dire.
Elle est intelligente.
De prendre la réflexion de vous dire bon certes c'était pas agréable, ça m'énerve. Mais en même temps, si elle le dit, c'est qu'il y a une raison et il faut que
on relativise. On sait qu'on va pas, si on a envie de se faire mousser et d'avoir quelqu'un qui est constamment d'accord avec nous, déjà, ça nous fera pas évoluer et puis on n'a qu'à aller voir une amie. C'est sûr que si on va voir une psy, c'est aussi pour entendre des choses désagréables. Le but, c'est de changer et d'aller mieux. Et ça passe forcément par ces phases-là. Mais bon, voilà,
c'est constructif de toute manière. C'est constructif.
Voilà, c'est constructif. Puis c'est pas vraiment une colère contre Alice. Je pense sur le moment, c'est parce que c'est le thérapeute qu'on a en face qui nous renvoie certaines choses. Mais la colère, en fait, elle est portée sur nous, je pense.
Oui, en quelque sorte, oui, puisqu'elle est quelque part, elle vous renvoie vos actes. Donc forcément, c'est une colère, oui, qui se fait sentir à travers Alice, parce que c'est elle qui vous a dit ce qui était votre situation, votre effet miroir, mais en même temps, c'était les actes de votre vie et ce que vous aviez. Alors, vous avez, on sent ce climat donc de confiance, de bienveillance qui s'est installé avec Alice. On comprend que vous êtes allé dans une démarche à deux, si on le comprend bien. Hein, c'est bien ça, hein, ce que vous disiez.
Une démarche à deux, c'est-à-dire
de couple. Où elle est venue, Lorraine, quand vous avez fait appel à Alice, c'était dans quelle démarche?
Seule,
c'était hein, dans une
moi
démarche.
Toute seule, oui.
D'accord, dans une démarche seule. Donc, vous me faisiez même rire, que vous disiez presque, est-ce qu'elle peut pas devenir ma copine? Est-ce que ça peut aller à un sentiment même de dépendance, de dire à un moment donné, je vais avoir besoin d'Alice tout le temps. Alors pas parce que vous avez des problèmes tout le temps.
Il y a des périodes
temps,
hein. Comme ça.
Ouais.
Oui, oui, non, non, mais il y a des, dans la thérapie, il y a cette phase-là où je pense que ça doit être la phase où on est vraiment très, très mal.
D'accord.
Et moi, je sais que j'ai commencé au départ, j'y suis allée vraiment toutes les semaines. Et je peux vous dire que je pouvais louper n'importe quel rendez-vous sauf celui-là. Donc c'était...
C'était votre moment, quoi. Il le fallait, celui-là.
Oui, mais c'était, même s'il y a des fois c'était compliqué, c'est quand même...
Oui, toute l'organisation était possible pour ne surtout pas manquer votre séance avec Alice.
Après, je pense que ça, tout dépend de comment on se sent. Il y a des gens qui veulent régler des petits soucis, mais c'est pas forcément des grosses névroses ou des grosses choses qui posent problème au quotidien. Donc après, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu moins rigoureux, mais après, tout dépend de l'envie qu'on a et du mal-être qu'on ressent, je pense.
Mais ce sentiment de... Alors, on a entendu que vous disiez au départ, c'était toutes les semaines et vous auriez jamais raté votre rendez-vous. Ça a pu s'espacer à des moments. L'éventualité d'arrêter, c'est un jour arrivé ou vous avez toujours eu besoin quand même d'un suivi régulier?
Là, on a espacé parce qu'il y a beaucoup de gros points qui ont déjà été travaillés. Mmh. Et là, on va dire, c'est pour finir tranquillement, on va dire, la thérapie.
Et alors, voilà. Pour finir tranquillement cette thérapie, mais est-ce que c'est pas compliqué de se dire que peut-être, dans X temps, vous allez pouvoir vous dispenser des séances avec Alice ? C'est pas une angoisse pour vous, une inquiétude, non ?
Peut-être pour... une toute petite, mais bon, ça veut dire que si je n'y vais plus, ça veut dire que mon problème est réglé. Et forcément, comme je viens l'avoir pour ça, mon but, c'est de ne plus la revoir plus vite possible.
Parce que ça fait comme presque une relation. Alors, ça n'a rien à voir, Alice, mais ça fait presque comme une relation. Pas amoureuse, mais vous savez, quand on a une habitude qui s'est installée et sur un bien-être, puisque malgré tout, c'est un bien-être. Des fois, on a dit, on a peut-être pas envie de lâcher ce bien-être-là.
Non, mais c'est bien tout ce que vous dites toutes les deux. Bah, si je reprends les propos de Lorraine, où on avait accéléré les séances, on se voyait toutes les semaines, et après, c'était peut-être difficile au début d'espacer. Alors là, je vais vraiment employer le terme de fusion, parce que qu'est-ce qui joue dans cette relation thérapeutique lorsqu'on travaille avec l'autre pour reconstruire, pour avancer? C'est vraiment cette phase où le patient se sent en fusion. Il a besoin de cette fusion. C'est quoi cette fusion? C'est pour retrouver la relation avec la maman et retravailler sur cette période de séparation, justement, dont on parlera entre les 9 mois et les 18 mois. Et ça correspond exactement à cette période-là. Rien n'est anodin. Voilà. Et après, cette sensation aussi d'éventualité d'arrêter la thérapie jusqu'à arriver à ce moment-là, ça va aussi avec cette notion. Alors, quand je dis aussi la vie, c'est quoi? C'est apprendre à faire des deuils. Et quand on fait un deuil d'une relation, même si ça se termine bien, c'est la notion de perte. Voilà. Et en fait, l'air de rien, même si on a l'impression de faire que discuter de l'extérieur, les gens qui ne savent pas ce qui se passe, c'est que nous, on travaille tous les concepts autour avec notre outil que nous avons, le langage, la parole, mais finalement, dans notre analyse, dans notre travail, on va dire thérapeutique, on retravaille tous ces concepts cruciaux avec la personne sans qu'elle même ne s'en rende compte.
Voilà. Oui, non, parce que c'est pour ça que je demandais à Lorraine si cette séparation. Cette séparation, c'est un grand mot.
Nous ne sommes pas encore séparés avec Lorraine.
Tout à fait.
Mais cette éventualité qui pourrait arriver dans un certain délai ne serait pas... Alors, je n'ai pas envie de créer un problème qui n'y est pas, mais de vous provoquer à vous, Lorraine.
Non, mais c'est vrai que ça risque de faire bizarre et d'avoir une petite perte, mais en même temps, il y aura un problème de résolu. Donc, comme
une satisfaction
le problème est résolu, on se sent mieux. Donc la perte est quand même moins importante que quand on a l'impression de tout perdre ou quand on est quitté par quelqu'un.
Oui,
mais
d'accord.
Après, je sais aussi qu'au moindre problème, je retournerai voir Alice. Et ça peut être, même si c'est dans 2 ans, dans 5 ans, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et on peut aller mal à tout moment pour n'importe quoi. Mais je sais que chez moi, c'est un réflexe.
C'est beau en tout cas parce que c'est quelque part vous avez eu cette démarche était la première fois que vous faisiez appel à un professionnel comme Alice ou
non pas du tout.
Alors
j'ai déménagé donc j'ai été suivie pendant pas mal de temps par quelqu'un là où j'habitais avant et quand j'ai déménagé dans le sud j'ai d'abord vu une première dame et que je suis restée quand même quelques mois. Mais je vous avoue que ce climat de confiance et d'apaisement, je l'avais pas comme avec Alice. Donc j'ai arrêté pendant quelques mois. J'ai vu personne. Et ensuite, je me suis dit, là, faudrait vraiment que je retrouve quelqu'un. Et c'est Alice qui s'est présentée. Ça s'est très bien passé.
Alors, ce cadre, si on pouvait faire un comparatif pour nous aider à nous qui, peut-être, ce monde-là nous semble complètement inconnu. Ce cadre qui s'installe, même ce cadre mobilier, vraiment le lieu. Si vous pouviez faire une comparaison entre ces deux professionnels, il y avait des différences ou pas spécialement? Là, je vous parle vraiment dans la pièce, hein, vraiment le contexte de l'agencement, dans le mobilier, dans la couleur des murs, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y avait déjà une différence entre les deux professionnels, entre Alice et celui que vous aviez avant?
Ça reste léger, mais oui, on voit quand même un petit peu la patte personnelle du thérapeute.
D'accord.
Et il y en a certains qui... Enfin, il va y avoir beaucoup de livres, d'autres, ça va être plus des dessins ou des images... Après, tout dépend aussi des supports avec lesquels travaillent les psychologues, parce que chacun a ses supports et ses façons de faire. Et oui, j'avoue que c'était un petit peu différent, mais c'est pas vraiment
c'est
ça.
Pas, oui, qui... c'est pas une évidence.
Non, c'est pas une évidence et c'est pas trop ça qui joue. C'est vraiment dès les premiers instants, quand on commence un petit peu à dire pourquoi on vient. Déjà aussi, c'est de voir la compréhension de ce qu'on est en train de dire du thérapeute en face. Il y a des fois où la dame que j'étais allée voir avant Alice était très bien, mais je me sentais pas aussi bien compris qu'avec Alice.
C'était quoi quand vous disiez je me sentais pas aussi comprise, c'était quoi? C'était dans ses réponses, c'était dans son positionnement, dans son attitude, c'était dans quoi? Dans ses réponses, c'était dans quoi, Lorraine, si vous pouvez arriver à nous dire un petit peu?
Dans les réponses, pas vraiment, parce que la personne, et je pense que c'est aussi un réflexe de psy, c'est de dire je vous comprends, et ensuite on va essayer de trouver la solution à votre problème. Mais le je vous comprends, y a des fois où on le sent plus honnête qu'un autre.
Et pourtant c'est les mêmes mots, hein, on est bien d'accord. Hein.
Oui, c'est les mêmes. Mais après, je pense qu'il y a aussi la personnalité de la personne qui rentre en compte, pas que son cursus professionnel et la façon dont il a appris le métier. Je pense que ce qu'on ressent et après, je pense aussi que la plupart des psys ont fait eux-mêmes une thérapie avant d'être psy. Et je pense que selon la thérapie, ça doit aussi changer.
C'est bien possible, vous confirmez, Alice?
Ah, mais tout à fait. Ouais. Il y a, comme on dit, les mots sont les mêmes, et comme il y a pu y avoir ce côté, le non-verbal, parce que 80% de la communication passe le non-verbal. Voilà, comme ce réflexe que dit Lorraine de « je vous comprends ». Alors, moi, je dirais pas réflexe, on va dire, c'est... Alors, à la base, c'est censé
c'est
être sincère, et c'est le vraiment le cœur de notre métier.
Et oui, je Nous valide que je vous écoute et je vous comprends.
Pour comprendre toutes les situations, voilà. Et en fait... Aussi, comme dit Lorraine, si le psychothérapeute a fait un travail personnel ou pas, bien évidemment que les réponses et positionnements sont différents. Car à la base, à part les psychanalystes, on fera une émission pour différencier les différents types d'accompagnement thérapeutique. Tout le monde n'est pas censé avoir fait un travail sur soi quand ce n'est pas obligatoire. Si on parle des psychologues, psychiatres ou autres, il n'y a pas ce travail obligatoire. Certains le font parce qu'ils le judicieux et nécessaire, d'autres ne le font pas. Donc bien évidemment que les réponses en face vont être différentes.
On le sent, on le sent, mais c'est pour ça que quand je vous disais fusion, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une connexion qui s'installe. Vous voyez, Lorraine est en train de dire que quelque part, la séance commençait pareil, le cadre, c'est pas celui vraiment, la couleur de la peinture, le siège, le canapé, les photos, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on dirait qu'il y a une connexion qui s'installe, inconsciente peut-être.
Il y a déjà l'inconscient, nos inconscients déjà communiquent entre eux, hein, qu'on le veuille ou non. Mais aussi, moi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est psychanalyste et qu'on a un patient face à soi, on dit que nous sommes censés donner le maximum de notre espace psychique à la disposition de l'autre. C'est-à-dire que en ayant travaillé sur nous, on a tous un psychisme, une structure. C'est-à-dire, c'est d'enlever le maximum de nos problèmes, de notre vie perso, pour laisser justement la personne entrer quelque part en nous pour qu'on puisse lui renvoyer tout ce qui se joue consciemment et inconsciemment chez elle.
Eh bien, c'est bien profond tout
ouais,
ça.
C'est un beau programme.
Ah oui, c'est un très beau programme. Et...
Après, je trouve qu'il n'y a pas que le langage verbal, il y a aussi le langage corporel. Et je pense que c'est ça aussi avec mon ancienne thérapeute où je pense que le langage corporel, ça ne matchait pas. Je ressentais certaines choses qui étaient différentes des propos.
D'accord. Quand vous dites corporel, pour qu'on arrive à imaginer et imager aussi ce que vous dites, corporel, c'est quoi dans le positionnement? Peut-être la mise en... la personne se met en avant?
C'est ce qu'on ressent. Oui, ouais. Peut-être dans la façon dont elle s'exprime, la façon, les mimiques du visage ou du regard quand nous, on s'exprime. Et donc, comme je vous ai dit, un peu le réflexe, c'est « je vous comprends », mais... Il y en a certains où ils vont dire « je vous comprends bah, par réflexe » et il y en a d'autres où on voit vraiment qu'ils nous comprennent.
Oui, parce qu'on disait, Lorraine, justement, c'était la question que j'ai posée à Alice avant votre intervention, c'était que parfois, peut-être, on s'imagine que quand vous allez déverser une grande émotion qui va vous bouleverser, on se dit, à un moment donné, peut-être ce professionnel vous voit tellement dans l'émotion, tellement dans ce bouleversement qu'il va peut-être... se lever sa chaise et venir poser une main sur votre épaule et un petit peu vous consoler en quelque sorte. Vous, c'est quelque chose que vous auriez attendu ou non parce que vous estimez que ce professionnel-là, peut-être juste en marquant un visage d'acquiescement, de dire « bon, mais je suis désolée que vous soyez dans cet état-là, mais je vous comprends », vous suffit.
Oui, non, je pense pas qu'il y ait besoin du toucher pour sentir la compassion.
On est bien
c'est
d'accord.
Pas forcément, ouais, c'est pas le toucher, c'est vraiment dans l'explication. Après, je vous dis, si on a besoin de câlin, je pense qu'il y a d'autres personnes à aller voir.
Oui, je conseille.
voilà.
Non, donc, mais c'est parce qu'on est vraiment, on se posait vraiment cette question, vous voyez, Lorraine, que de dire, bon, certes, on est avec un professionnel, on n'est pas là pour instaurer des actions, des sentiments, et voilà, mais c'est vrai que quand des fois on pleure, je demandais à Alice, c'était pas dur pour elle de rester impassible, même si quelque part elle met cette barrière de manière professionnelle, mais de se dire voilà, si vous êtes en train de pleurer pour X raisons, de dire oh mon Dieu, on a tellement envie de vous consoler, quoi. Je veux dire, comme on le ferait avec une amie, voyez.
Ah oui, je pense que Alice, chez certaines personnes, oui, de toute façon, l'émotion des gens comme ça, quand on les voit pas bien, ça fait forcément quelque chose, mais après. Bon, je pense que le thérapeute sait que c'est pas non plus le câlin qui va résoudre le problème et après il faut poursuivre dans la discussion et dans les explications.
Oui, et comme quoi on voit bien que vous avez été entre guillemets soulagé, consolé sans qu'il y ait cette présence physique, hein, Alice.
Mais j'ai envie de dire, le rôle du psy n'est pas de consoler. C'est de comprendre,
d'achever.
Non, loin de là.
Ce qui ne va pas.
Ben, c'est ça, de comprendre, de contenir la personne dans son mal-être, premièrement, et ensuite lui faire comprendre ben, qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'elle en soit là actuellement. Mais en aucun cas, on est censé consoler de la façon dont on peut l'imaginer, on va dire, dans le jargon populaire et dans nos relations normales avec les autres. Surtout pas, quoi.
Surtout pas. Bon, en tout cas, on voit que ça a porté ses fruits puisque Lorraine s'exprime divinement bien et sans le vouloir a permis de montrer tous les sujets qu'on a abordés en les expliquant sur son expérience avec vous, Alice. Et on voit que ça porte ses fruits puisque, bon, maintenant, on va être dans la phase séparation.
Non, je vous embête.
Voilà. On y arrive tranquillement, ça sera en douceur, avec beaucoup de bienveillance, et tout se passera bien.
Non, voilà. Je vous embête, c'est parce que ça me fait rire, parce que je vois que ça fait une relation, mais vraiment, voilà, c'est une habitude qu'on prend, un confort quelque part, et c'est tout dans la bienveillance, évidemment, que cela se joue. Voilà. Et puis, ça porte ses fruits, parce que le principal là-dedans, c'est de ressortir grandi dans un bien-être, dans un état de renaissance, si on peut dire, je sais pas,
hein, oui, de reconstruction,
tout à voilà fait. Hein, et c'est votre cas, j'espère.
Oui, de mieux se connaître. Ouais, mais écoute, de mieux se connaître, mieux gérer ses émotions, et oui, c'est ça.
Bon, mais alors écoutez, je vous souhaite le meilleur dans votre relation avec Alice et dans votre vie également. Et merci d'avoir été là avec nous et de nous avoir confié votre témoignage si précieux aujourd'hui sur cette émission, Lorraine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Alors c'est vrai que vraiment c'est un beau témoignage qu'on a eu de Lorraine. Elle a vraiment évoqué tous les points qu'on a abordés dans la première partie de cette émission. Alors on voit qu'il n'y a pas cette dépendance finalement avec vous, mais qu'il y a quand même une phase qui était abordée, que vous disiez peut-être que les patients ne s'en aperçoivent pas, mais vous préparez cette éventualité, cette séparation.
Tout à fait, en fonction de la problématique, de la pathologie et ou de la névrose ou psychose du patient, on s'adapte et on, comme vous dites, on fait en sorte que la personne retraverse finalement ces périodes, ces stades d'évolution qui n'ont pas été bien traversé ou consolidé à travers de sa vie d'adulte pour pouvoir ensuite avancer le plus sereinement possible.
Peu importe la problématique qui sera la nôtre au moment de venir vous consulter, ces phases sont quasiment identiques ?
Non.
Non ?
Non, non, non. Chaque patient, un comportement, alors quand je parle de comportements différents, je suis la même, ok. Donc il y a pas de problème
vous
avec
êtes
ça.
Le point,
c'est justement, c'est de par l'analyse de la structure de la personne, de réussir à comprendre de façon le plus précise possible qu'est-ce qui se joue, où est-ce qu'elle en est cette personne. De moi, en étant dans la psychanalyse, de comprendre justement à les comportements d'adultes, à quel comportement peut-être d'enfants, cela, on va dire, je parle au niveau du psychisme,
bien sûr.
Cela nous rapporte, est-ce que ce sont des comportements conscients, est-ce que ce sont des comportements inconscients, que mon travail d'élaboration va être différent.
Le travail n'est pas le même forcément, la
non.
réaction est individuelle
Tout à
et
fait.
Propre à chacun, donc vraiment il n'y a pas voyez, de schéma type où on se dit, bon, mais pour ces patients-là qui souffrent de cette
pathologie
ou de cette problématique-là, ça va être ça et ça.
On peut avoir
sur des pannes mécaniques, quoi.
On peut avoir des points en commun, voilà. Mais comme je dis, en psychanalyse, il n'y a rien de protocolaire. C'est-à-dire, ok, je dis n'importe quoi. S'il y a une personne qui a un problème de faire du deuil. Voilà, un deuil, de la séparation. Ben justement, je vais retravailler sur cette période-là qui a mal été vécue pendant la petite enfance, mais avec des mots d'adulte dans une vie d'adulte. Vous voyez, pour d'autres personnes, je vais travailler sur, on fera une émission là-dessus aussi, sur la reconnexion à l'enfant intérieur. C'est-à-dire, il y a des adultes qui sont encore blessés en tant qu'enfants. Et donc, ils sont impactés dans leur vie d'adulte, avec leurs diverses relations, et
même
ça va être
si
un travail différent.
Consciemment encore, j'imagine, on s'en aperçoit pas.
Mais c'est ça, tout à fait, dans
c'est
son petit agi. Donc, à chaque personne, une personnalité différente, une structure différente, et c'est ça aussi le cœur de notre travail, c'est de réussir à l'identifier pour l'aider au mieux à se réparer, à se reconstruire.
Mais c'est perturbant quand même à nous, pour nous, Alice, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ce déclencheur de dire... voilà, je suis dans une X problématique, je souffre, je ne suis pas bien, je le ressens, ça impacte dans ma vie du quotidien, mon entourage familial ne me permet pas de me sentir mieux, pas parce qu'ils ne sont pas compétents, pas parce qu'ils ne sont pas assez affectueux ou à l'écoute, mais parce qu'à un moment donné, peut-être, il me faut autre chose. Donc c'est vrai que aujourd'hui, comme je vous le disais en début d'émission, la démarche d'aller voir un professionnel est plus peut-être
facile
oui, aujourd'hui. Mais malgré tout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on va se dire, bon voilà, là j'en suis à un moment que peut-être il faut que je me fasse aider.
Ben, quand il y a cette notion de souffrance répétitive, d'incompréhension, de mal-être... après, on peut aller voir un thérapeute lorsqu'on travaille, on traverse une épreuve de vie aussi. Voilà, on peut venir me voir que pendant quelques mois, si on doit déménager, si on doit divorcer, si on vient de perdre quelqu'un, sans forcément travailler en profondeur, entre guillemets.
Parce qu'on se dit, voilà, vous êtes en train de dire, mettons, un déménagement, un deuil. Tout le monde passe par ces phases-là. Mm-hmm. Alors, pourquoi certaines personnes ont plus de mal que d'autres, vous voyez, parce qu'on se dit quelque part, il faut être fort, il faut assumer toutes ces
phases. J'aime pas le terme il faut.
Non, mais alors je vous dis il faut parce que c'est conventionnel quelque part. Au plus, on voit des personnes fortes qui arrivent à encaisser tout. Alors on se dit ces personnes-là sont fortes. Mm-hmm. Et donc, quasiment, on n'a pas besoin de faire appel à un professionnel ou à un tiers. Mais quelque part, ces personnes, elles sont quoi ? Elles sont dans le déni ou c'est juste parce qu'elles sont...
Pas forcément. Il peut on va dire, si on va donner deux cas de figure, est-ce que ces personnes ont été suffisamment bien construites, assez équilibrées, assez entourées justement de figures d'attachement sécurisantes qui fait que à leur âge d'adulte, ils ne se sentent pas perdus en insécurité ou face à un vide lorsqu'ils traversent une situation, un événement particulier, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas été sécurisées, peut-être qui n'ont pas, on va dire, été confrontées à des difficultés aussi dans la vie, pour lesquelles ça peut être plus compliqué. Il y a aussi cette notion de dépendance affective. Il y a des personnes qui ne réussissent pas, on veut dire, à avancer ou à mettre en place non plus, je veux dire, des nouvelles situations sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça, dans la réponse que je vous fais, pareil, ce n'est pas une généralité. Et pour continuer aussi à répondre à votre question, il est vrai qu'aussi, certaines personnes qui semblent fortes, qui arrivent à traverser toutes ces épreuves, peuvent effectivement être dans le déni. Pourquoi ? Parce que quelquefois, il peut y avoir cette histoire d'ego. Quelquefois, on a l'impression de ne pas être autorisé à montrer ses fragilités en société par rapport à comment on était construit dans la famille, par rapport au jugement et à l'œil porté, on va dire, sur nous lorsqu'on était enfant adulte. Donc, tout peut venir d'un tas de situations qui fait que, effectivement, nous réagissons différemment.
Non, mais c'est vrai que ça se conçoit parce que personne n'est constitué comme les autres. Je veux dire, comme vous disiez, il y a presque les fondations, les bases qui font que tout individu est propre à chacun et avec ses bases. Mais c'est vrai que on se dit presque ça peut être une faiblesse à un moment donné de faire appel à ce professionnel. Et alors qu'aujourd'hui, on voit que finalement, non. Ce n'est pas une faiblesse.
Alors pour ma part, c'est faire preuve peut-être de pertinence. Alors je parle d'intelligence émotionnelle, pas d'intelligence, voilà, et d'être honnête avec soi-même aussi, tout simplement.
Ce n'est pas quelque chose.
Un échec, c'est pas une fatalité.
Voilà.
Ce n'est pas une punition de devoir aller voir.
Voilà, c'est vraiment les mots que je voulais dire. J'avais peur de les employer de dire que peut-être un peu brut, mais.
Non, mais certaines personnes peuvent l'entendre de cette façon.
Voilà, parce que j'imagine que d'autres personnes doivent se dire d'aller voir un professionnel, c'est. Tu te rends compte, il faut que j'en arrive à ça pour m'en sortir.
Et surtout de raconter sa vie à un inconnu.
Aussi, c'est vrai, ce n'est pas forcément évident. Vous avez eu des patients d'ailleurs où ça a été très très dur de pouvoir les faire parler ? Même si la démarche, ils l'ont faite quelque part, ils l'ont faite pour parler.
J'ai envie de dire, en général, tout se passe plutôt très bien. Mm-hmm. Les gens sont justement assez étonnés de ce climat de sécurité, de confiance qui se met en place. Je crois que j'ai
Vous
n'avez
jamais
eu
cette expérience Non, parce que parfois, on peut imaginer des personnes qui sont assez bloquées et qui auraient du mal à dévoiler.
Alors, on peut commencer pour la première fois, pour une première séance, où la personne peut chercher ses mots et n'ose pas parler. Après, c'est notre rôle de la faire sentir justement dans cette relation qui est juste, qui est neutre et d'accompagnement, on va dire... pour lui faire comprendre que vous vous sentez en sécurité. Il y a le secret professionnel aussi qui est important à poser. Ça, je dépose avec tous mes patients.
Ah bien sûr, on s'imagine bien que vous n'êtes pas là à raconter la vie des uns et des autres à votre entourage ou à qui que ce soit. On va tout de suite s'enrichir cette émission encore une fois avec un second témoignage. Et celui-là, c'est celui de Jean. Jean, bonjour.
Bonjour.
Merci.
Bonjour,
Jean.
Jennifer.
Merci.
Bonjour.
Merci Jean d'être avec nous, avec Alice également, pour justement nous proposer à tous les auditeurs de comprendre un petit peu cette relation thérapeutique entre un psychologue, un psychiatre et un patient. Vous, comme je l'ai demandé au premier témoignage, ce mot relation pour vous, comme ça on va avoir aussi deux avis peut-être différents ou complémentaires ou identiques, ce mot relation, il a du sens pour vous ?
Ah, complètement. Alors moi, je voulais juste dire que je prends l'émission en cours, donc j'ai pas entendu le témoignage précédent. Je viens juste d'entendre Alice dire qu'il fallait du courage, que c'était aller à l'essentiel, être honnête avec soi-même et être pertinent, et que c'est pas une punition. Et là, je la rejoins totalement là-dessus. Moi, ma rencontre avec Alice était plutôt inattendue. J'avais pas l'intention d'avoir une approche psychanalytique quelconque, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ça a été plutôt le concours de circonstances. Je me passionnais pour la généalogie. Et une amie m'a dit, bah, tiens, j'ai suivi un atelier d'initiation à la psychogénéalogie avec Alice Lecomte, et ça devrait t'intéresser. Donc, quelques temps après, il y a eu une nouvelle session, je m'y suis inscrit. Et là, j'ai assisté médusé à cette conférence d'Alice. J'étais tout de suite séduit, et en fait, le but, c'était de mettre en évidence la puissance des liens ancestraux, et avec toutes ces croyances conscientes ou inconscientes qu'on développe dans le système familial, quoi. Mmh. Et donc elle nous a fait faire, je me rappelle, un génosociogramme, c'est-à-dire une représentation graphique de la famille sur plusieurs générations. Alors je crois que ça a été développé par, mémoire est bonne, par Polo Alto dans les années 70. Et là, je me suis rendu compte que, ben oui, ça me sautait aux yeux, quoi. Je veux dire, les liens entre les uns et les autres étaient flagrants, avec ben, les souffrances, les espoirs, les relations toxiques, les relations difficiles, ou très 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 fortes et chargées émotionnellement, pleines d'amour. Voilà. Et ça a été ma rencontre avec Alice à travers cette approche de la psychogénéalogie, quoi.
Oui, du coup, c'est, alors le témoignage précédent n'était pas du tout dans cette démarche là hein. Alice, c'est vraiment là pour dire un patient qui a pas du tout la même démarche, la même approche que pour dire notre témoin Lorraine.
Tout à fait. Bonjour Jean. Je vous ai pas salué.
Bonjour Alice.
Effectivement, pour moi, c'était important qu'un témoignage féminin et masculin et avoir deux histoires différentes. C'est-à-dire que voilà, si on parle de Jean, il est venu par curiosité, voir ce qui se jouait dans ce côté transgénérationnel qu'on
étudie. Un thème qui l'intéressait, qu'il avait envie d'approfondir.
C'est ça, de la psychogénéalogie. Et par rapport à ce qu'il a pu découvrir, ce qu'il a pu ressentir lors de cet atelier, et aussi du retour d'atelier que je propose, je pense qu'il a eu la pertinence hein, et de s'interroger par rapport à peut-être à la vie qu'il avait actuellement et une envie de comprendre. Peut-être pour mieux
complètement
accepter.
Ouais, c'est ça, c'est un peu m'approprier mon histoire
votre
familiale
histoire,
et voilà, et mettre un peu de l'ordre dans comme dit aussi Alice souvent, elle dit dans le chantier laissé par les ancêtres. Mais alors ça c'est ok, mais je parle aussi du chantier que moi je serais susceptible de laisser à mes propres enfants, que ce soit les secrets de famille, les conflits, les maladies et tout ce qui conditionne les comportements parfois étrange et qu'on ne peut expliquer, quoi.
Voilà. Oui, surtout dans notre vie, hein, on a vu avec ce thème-là justement l'impact de la vie de nos anciens, si on peut le dire ainsi, dans notre famille, et la répétition parfois que ça avait aussi.
Éviter de boucler, de répéter certaines situations. Moi, c'était un peu aussi le fait que j'ai poursuivi avec elle parce que j'ai eu une forme de révélation, même si j'étais déjà conscient de tous ces problèmes. Mais les amis en évidence et
oui,
voilà,
elle a un petit peu décortiqué tout ça en quelque sorte.
Complètement, et puis c'est devenu presque, j'allais dire, un besoin. Ces rencontres, j'ai pas honte d'évoquer cette démarche. Je suis bien dans mes baskets.
Non, mais on l'a évoqué ce peut-être ce sentiment de malaise justement de se dire qu'on a besoin de cette présence là, de ce professionnel là. Et vous êtes complètement à l'aise. On le voit bien avec ça.
Hein. Oui, complètement. Et puis en plus c'est une professionnelle de talent, c'est quelqu'un qui sait mettre les gens à l'aise, il n'y a pas de jugement, on peut parler en toute confiance, et franchement, quand je dis parler en toute confiance, c'est en toute confiance, avec un grand C.
C'est rigolo parce que vous voyez, vous avez pas du tout entendu le premier témoignage, vous avez pris l'émission en cours et vous abordez les mêmes points de cette relation de confiance, de ce non-jugement, d'un climat de confiance, voilà, et de compréhension qui s'installait entre vous et votre professionnel. Donc voilà, comme quoi C'est pour ça qu'on n'a pas voulu justement que vous vous entendiez les uns et les autres. Au moins, c'était neutre. Et on voit la pertinence des mots que nos deux témoins sont en train d'évoquer, là, Alice.
Bon, déjà, je vous remercie, Jean. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être si gentil avec moi.
Hein. Allez-y.
C'est ma nature, Alice.
Vous pouvez la descendre complètement, Jean.
Non, descendez-la. Le précédent témoignage, elle disait qu'elle pouvait être en colère contre moi, donc allez-y. Hein.
Oui, alors, c'est vrai.
Mais,
alors,
mais, c'est... Moi, mais je ne peux pas le dire, parce que franchement, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est à chaque fois magique et c'est un pas un peu plus en avant dans la recherche sur moi-même pour éviter justement de boucler, de répéter certaines situations, de me poser des limites, changer mes habitudes, ce gros travail sur moi-même. Moi, j'ai pas honte de le dire et de le faire, quoi. Voilà.
Alors, la colère qu'elle évoquait, Alice, par rapport au témoignage, c'était pas de la colère de non-satisfaction de la séance ou quoi. C'était de la colère de dire que parfois, quand elle la mettait face à une réalité qui était un effet miroir, qui était par rapport à sa vie, des fois, elle ressortait avec ce sentiment de colère, de dire, mais quand même, elle m'a dit ça. Et après, pour elle, c'était un travail qu'elle faisait sur elle-même en se disant, bon, mais si elle a dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et ça lui permettait d'avancer. Mais comme elle disait, la colère, elle était vraiment très passagère et assez rapide. Voilà, donc c'est pas du tout, parce que même elle évoquait qu'elle avait presque parfois le questionnement aussi de se dire, oh mon Dieu, après les séances, est-ce qu'elle pourrait pas devenir mon amie? Vous voyez, donc
c'est toujours pareil, c'est la relation patient-psy, hein.
C'est ça.
des fois, c'est borderline. Hein.
C'est bon. Il y avait ce sentiment aussi, peut-être, qu'on voulait vous demander de dépendance en quelque sorte. Est-ce que à un moment, vous vous dites que ces séances qui se font avec Alice seront tout le temps répétées et que vous n'avez que cesse d'avoir besoin de ces séances?
Alors, pas du tout. Moi j'espère bien arriver à un moment donné au bout de ma démarche, hein, même si on n'arrive jamais au bout de soi-même. Moi, il était important pour moi d'identifier mes problèmes, six problèmes il y a existentiels, ma problématique personnelle pour gérer certaines situations, comme tout un chacun, quoi. J'ai fait un gros travail de débroussaillage avec elle
c'est que vous ressortiez grandi de tout cela, construit avec un bien-être et une bienveillance qui est la sienne, ça c'est sûr, mais voilà, un bien-être qui est, je pense, réalisé.
Je pense que vous avez dit le mot qui lui convient le mieux. Je pense que c'est quelqu'un de bienveillant, quoi. Voilà, c'est, si je devais utiliser un qualificatif pour Alice, c'est le terme de bienveillant. Elle a cette magie dans la manière d'approcher les problèmes. Elle sait vous mettre à l'aise. Il y a pas de barrière. Il y a nos limites, quoi. Je veux dire, moi, je sais que Dieu sait, là, elle peut m'entendre, donc je sais très bien de quoi je veux parler. Je lui parle de choses de qui touchent l'intime presque, hein. Donc c'est assez magique et ça c'est très bien. Et en plus, il y a la problématique homme-femme qui est complètement gommée parce que justement, je suis en confiance, quoi.
Et oui, parce qu'on pourrait se dire que vaut mieux pour un homme d'être avec un homme, compris par un homme, avec la, vous voyez, avec les automatismes peut-être et les réactions d'un homme.
Alors si je peux répondre à la question, effectivement, excusez-moi Jean, c'est aussi par rapport à la problématique de la personne. Quelquefois, quel que soit le sexe de la personne, homme ou femme, il peut être conseillé de plutôt voir un homme ou une femme. Et bon, après, c'est mon travail aussi d'être honnête, à un moment donné, de dire, on a fait notre partie ensemble avec moi en tant que femme psy. Il peut être intéressant aussi de continuer une analyse aussi avec un homme.
Ah, d'accord, ça peut arriver.
De ce qui se joue également chez la personne.
Ça peut arriver.
Oui.
D'accord. Donc, comme quoi, il y a une importance malgré tout. Bon, là, qui se fait pas ressentir chez notre témoin Jean, qui, franchement, je peux vous le dire, Alice, prenez-le comme promoteur dans votre activité, parce que vraiment, il vous met vraiment divinement bien.
On sortirait du cadre, Jennifer, par contre.
Non, mais c'est pour ça, je veux dire, dans vos promotions futures, dans vos meetings, etc. Donc, voilà. Parce que Jean, vraiment, alors, il vous porte très bien.
Mais Jean est un bel orateur, un bon orateur et un très bon écrivain. Jean aussi, il faut savoir qu'il écrit de beaux poèmes. Enfin, on va dire, c'est son activité principale aussi. On pourrait dire des poèmes ou vous appelez ça comment, vous, Jean?
Moi, je raconte la vie.
Voilà.
Bon, peut-être qu'on se fera alors l'expérience de quelques poèmes dans une future émission, pourquoi pas, et voir vos talents d'écrivain, Jean. Voilà, puisque Alice complète votre bien-être.
Avec grand plaisir.
Merci Jean d'avoir pris le temps d'être avec nous, à travers votre sympathie, votre joie de vivre, de nous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair sur la relation entre un psy et son patient, voilà, la relation thérapeutique. Merci à vous et on vous souhaite le meilleur.
Merci à vous et merci à Alice pour d'être ce qu'elle est.
Merci à vous.
Merci
à vous.
Merci.
Bon week-end.
Au revoir Jean. Vraiment, Alice, vous êtes comblée au bonheur, là.
Ce n'était pas le but des témoignages.
Non, mais c'est vrai que... Non, c'était pas le but, c'est vrai que... Mais on voit qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a presque une limite d'attachement avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je dis pas amoureux, hein, ça n'a rien à voir.
Non.
Mais vous faites partie presque de notre... cadre famille ou amical,
c'est ça, j'entre dans l'intime, j'entre au cœur de la personne et quelquefois de la
limite,
famille.
Hein. C'est parce que limite, il y a un attachement et je peux comprendre qu'on ait du mal après à se défaire
et
de...
En fonction d'où on est avec les personnes, ouais. Et le discours pourrait être différent au début, au milieu ou à la fin de la thérapie.
C'est voilà. Ça, exactement. Alice, je pense que ça y est, on est arrivé au terme de cette heure, encore une fois bien vite passée, avec des très beaux témoignages, certes qui vous ont, même si c'était pas le but, promu meilleur psy de notre...
Non, j'ai aucune prétention à ce niveau-là.
Je pense que ça a reflété, en tout cas, la confiance et le bien-être qui peut être établi dans ces relations-là et dans ces séances parce que je pense que de toute manière s'il n'y avait pas ce climat installé rien ne pourrait se faire et on a vu hein, à travers Lorraine qu'elle disait elle a vu d'autres professionnels et qu'à un moment donné ce climat-là ne s'est pas installé pas parce qu'il n'était pas compétent mais il y avait quelque chose qui n'accrochez pas.
C'est une histoire aussi de la distance. Comme je dis, la juste distance ouais. Fait qu'on se sente bien avec la personne.
Exactement. Aussi. Alors, si vous voulez, comme ne serait-ce nos témoins Lorraine ou encore Jean, avoir affaire avec donc notre professionnelle Alice, certes, elle est là pour démêler un petit peu tout ce qui comble notre vie et tout ce qui fait notre vie, notre inconscient, nos relations amoureuses. Vous l'avez vu, on a tellement abordé de thèmes qui, moi, m'ont pris la tête. Elle me fait changer, Alice. Mais c'est dans le bon, c'est toujours dans la construction. Et je vais me demander à force, mais bon. Des fois, mais bon, allez. Mais voilà, donc si vous avez besoin d'Alice, Alice a ses jolis cabinets, qu'ils soient du côté de Saint-Cyr-sur-Mer ou sur Avignon. Et vous pouvez la retrouver à...
Donc, au numéro suivant, si vous voulez me joindre, au 06 48 72 79 97 et sur ma page Facebook Alice Lecomte ou Alice Lecomte psychanalyste.
Exactement, ou encore à travers votre radio Diva FM car Alice est uniquement sur notre radio et vous avez cette chance, je vous le dis, vous êtes des petits vénards. On vous souhaite une excellente soirée. Merci.
De même, un bon week-end. Merci
d'avoir été avec nous et on se dit à vendredi prochain, chers amis.
Tout à fait. Merci, au revoir.